écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse Gueule.
Bonsoir, Kia ora, good evening. Vous êtes sur Amuse Gueule, la radio des francophones et des francophiles. Ce soir en studio, à la technique, Anne-Sophie.
Bonsoir.
Et Virginie.
Virginie qui est très contente parce que son casque remarche.
Ah, d'accord. Et voilà, et Blandine à l'animation. On est parti pour une heure de choses très intéressantes, Virginie. Hein.
Oui, alors je vais parler d'une série télévisée que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La Mente.
Voilà, on va aussi vous parler de l'exposition Body World et puis beaucoup de musique.
Moi, je vais vous passer beaucoup de chansons d'un groupe qui s'appelle Nouvelle Vague, qui est un projet musical de Marc Collin et Olivier Libaud et qui reprennent des grands classiques New Wave, mais aussi des années 80 français,
ouais,
et
bien,
qui le remettent en version bossa nova.
Oh là, ah, c'est bien ça.
Eh ben oui, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors ici, l'hiver approche, ça se rafraîchit et un petit coup de bossa nova, ça fait du bien. J'ai écouté ça tout le week-end.
Super.
Ça rend le soleil.
Ouais. On en écoute un maintenant.
Voilà. Ben je vous dis pas quelle chanson c'est. Vous allez découvrir la façon dont ça démarre. Ça démarre un petit peu différemment, mais je suis sûre que vous allez les reconnaître.
super bien, hein, j'adore.
Bah attends, il y en a plein d'autres.
Ah, super.
Ah, vous l'avez reconnu, c'est l'aventurier original d'Indochine.
Mais alors du coup, c'est pas que des Français, c'est des reprises de New Wave françaises ou
Alors ils ont fait un album où c'est que des chansons françaises.
D'accord.
Et ils ont fait trois autres albums où ils reprennent des chansons genre de Dépêche Mode, de ces années-là en fait.
Alors quand on parle de ça, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'avais 16 ans, on a fait un week-end à la campagne où on dansait comme des espèces de... Je sais pas si vous avez cette espèce de danse où on bougeait les draps, les bras... Bah non, peut-être pas dans la même... Non, ça vous dit rien. Enfin bon, bref, on dansait comme ça. Et donc j'ai un super 8 de tous mes copains et moi en train de danser. Du coup, je sais pas, il faut que je le revoie. À mon avis, ça va être plutôt
horrible. Tu sais que tu peux les faire transférer sur
DVD
maintenant.
Justement, il y a, je parle avec un Français qui est là depuis longtemps, Olivier Vardeschi, qui a une boîte qui s'appelle Next. Et ils font justement de la numérisation des Super 8. Et moi, j'ai ramené de France tout un paquet de Super 8, dont j'ai perdu la moitié dans mon garage, qui est un peu une catastrophe, parce que dans mon garage, on retrouve rien.
Mais... J'ai vu le garage.
Oui, voilà.
On trouve rien.
Donc, justement, je vais faire ça. Je trouve ça fantastique. On peut tout numériser. Et, parce que c'est vrai que, bon, on sort plus tellement le Super 8. On peut le faire de temps en temps. C'est assez sympa aussi de le regarder sur.
Ouais, c'est sympa les Super 8, mais c'est vrai que c'est un peu, faut s'organiser, quoi.
Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, moi, j'avais toujours le nombre de faux, ça risquait de cramer aussi.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça sent dommage, en plus.
Ouais.
C'est difficile de garder les films aussi en état.
Ouais,
Moi, j'avais fait ça, donc des Super 8 de mes grands-parents.
Oh,
mais à l'époque, je les ai fait transférer sur VHS.
Ah, bah oui, bien
donc
sûr.
Donc, il faut que je fasse le VHS sur CD maintenant.
Donc, le fameux VHS.
Ouais.
Bah oui.
Et moi, j'ai aussi un truc que j'ai filmé en Pologne que j'aimerais bien, mais comme je le connais bien, Olivier, j'ai peur qu'il me voie parce que si mes souvenirs sont bons, je bois une bouteille de vodka avec un pote. Enfin bon. Donc, je me suis dit, oh.
Et parce qu'il n'a pas eu de jeunesse, ton copain Olivier?
Si, il en a eu, mais bon, tu sais, les gens te connaissent, t'es un peu con quand t'as 20 ans, il n'y a pas. Donc voilà, si t'as pas trop envie de te montrer sur ce. En tout cas, moi, j'ai pas trop envie de me montrer sous ce jour-là. Mais. Et en fait, c'était une mini cassette qu'on intégrait dans un VHS.
Ça, je me souviens.
Tu te souviens de
oui, totalement. Oui.
Ouais. Donc ça, je sais pas.
Ah, mais
pas,
oui,
J'étais en Pologne et j'ai fait.
C'est les caméscopes, c'est les cassettes caméscopes.
Oui, c'était des petites cassettes que tu mettais dans les grosses VHS.
Ouais. Mm-hmm. Et ça se déroulait comme ça. Et donc, ça, j'en ai une, et pareil, il faut que je vois avec
si
tu peux le numériser aussi.
Oui, parce que ça, c'était déjà une technique avancée.
Ouais. Et oui, c'était super à la pointe.
Oui.
Et donc, moi, j'en ai de d'Inde aussi, d'il y a 20 ans maintenant. Enfin bon, il y a quand même, il y a plein de super souvenirs, quoi. Et le truc que j'aimais bien avec le Super 8, c'est que on était limité dans le temps. On n'avait pas cette espèce de truc de... Parce que là, maintenant, on peut filmer pendant je ne sais pas combien de temps. On filme des choses que finalement on regarde plus du tout parce que c'est tellement long que...
Et puis ça coûtait cher, c'est ça le truc.
Oui.
C'est pareil avec les appareils photo. L'ère du numérique, c'est un peu ça qui détruit le côté un peu... la valeur de la photographie, etc. C'est que il n'y a pas de limite et puis le coût n'est pas là, donc tu peux refaire 1000 photos.
Ceci étant, je trouve que ça change vachement avec les réseaux sociaux. Parce que comme on poste, en fait, et que ça va être regardé par pas mal de personnes, je pense qu'on fait plus attention à ce qu'on photographie que au début du numérique, où justement on prenait la famille, on prenait les copains. Tu vois ce que je veux dire? Je me demande si les réseaux sociaux réduisent pas justement cette espèce de nombre qui est arrivé avec le numérique.
Ben, je sais pas, parce qu'en même temps, je me dis, l'ère du numérique fait que, par exemple, quelqu'un m'a parlé de ça, je trouvais ça assez intéressant, c'est que l'ère du numérique te donne aucune, comment t'appelles ça, espace privé. C'est-à-dire que, par exemple, je vois avec les parents des enfants qui postent des photos de leurs enfants, c'est-à-dire qu'en tant qu'individuel à 6 mois, 1 an, en fait, on passe déjà des choses qui te concernent toi personnellement.
Oui, sans ton accord.
Sans ton accord.
Ouais,
alors, et en fait, finalement, ça t'enlève cet espace de vie privée, sans que les parents finalement se posent énormément la question. Ça, c'est mais tu postes sur un espace public des photos de quelqu'un, c'est-à-dire que cet enfant va devenir un adulte et ils pourront consulter des images d'eux-mêmes en étant et sans leur avoir demander leur avis.
Sans compter que tout le monde s'en tamponne le coquillard des photos des enfants des autres. Quoi. Mais c'est vrai, on en a rien à faire, quoi. Quand tu vois, il a eu sa varicelle, il a mangé sel, on n'en a rien à faire. Quoi. C'est vrai que, alors c'est bien pour la famille, etc., éventuellement pour les grands-parents, mais sinon, quand on regarde ça, on dit c'est
Et puis ça crée un peu, pour moi, certains parents sont pires que d'autres, mais il y a un peu cet esprit, si tu postes des photos de tes enfants comme ça, je me demande si ça crée pas un peu une génération narcissique aussi. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que leur vie est tellement importante, alors oui, que finalement, bon, t'es là, non mais t'as 5 ans, ta mère poste énormément de photos de toi, ça veut pas forcément dire que c'est important.
Je crois pas que les enfants soient tellement au courant de ce qui est posté sur eux.
C'est vrai. Pas pour le moment, en tout cas.
Oui, mais... tu sais, quand ils ont 10 ans ou un truc comme ça...
Il y a des mères qui font des channels YouTube.
Avec leurs enfants?
Oui, t'as jamais vu ça?
Ah non, déjà je te dis, sur Facebook, ça m'a...
Ah, c'est très fort. Très fort, oui.
Mais c'est pas Justin Bieber qui a commencé? Non, je parle. Je plaisante.
C'est marrant parce que je suis en train de faire un projet artistique justement là-dessus.
Oh, génial.
Sur les photos en tant que souvenir, en tant que mémoire, en tant que souvenirs familiaux, et qu'on poste sur des réseaux sociaux et donc qu'on ne souhaite pas partager, qu'on refuse de connaître comme data. C'est pas des data. Donc en relation avec ce qui se passe actuellement avec Cambridge Analytica et tous ces gens en ce moment, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais qui sont en train de downloader leur data de social media. Et qui sont en train de se rendre compte qu'il y a tout dessus.
Ouais.
Absolument tout. Où ils sont allés le vendredi 12, 2014, à midi, quoi. Ouais. C'est grave, quoi. Et donc, justement, le projet que je suis en train de faire, qui est une collaboration avec un groupe d'artistes, ma réponse justement à ça, c'est de travailler sur les photos en tant que mémoire dont on veut retenir un certain copyright émotionnel, en fait. Émotionnel.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à la série que tu avais faite sur... Mais c'est amusant, justement, parce que c'était des photos des années 50, surtout.
Oui.
Et du coup, effectivement, là, c'était beaucoup plus... C'est plus rare, en fait. C'était vraiment des choses... Mais il y a une sorte d'anonymat dans les photos que tu trouvais, de même qu'il y a une sorte d'anonymat, j'imagine aussi, dans ce qui est trouvé sur le net.
Mais j'utilise encore donc des photos pour ce projet-là.
D'accord.
J'utilise encore des photos que je trouve dans des op-shops, etc., qui sont noir et blanc.
Génial.
Et donc je les occulte. Enfin, j'en reparlerai quand l'expo sera en cours.
Oui, d'accord, très bien. Ok, super. Dernière chose, moi je me souviens au moment justement où on a commencé à avoir les caméscopes, je me souviens le petit ami de ma mère. Était désespérée parce que ma mère avait une sœur et le petit ami de sa sœur avait filmé leurs vacances et notamment une visite en hélicoptère qui durait des plombes, quoi, le truc durait une heure, et il avait tout filmé. Et donc, projection en revenant des vacances,
aïe, aïe.
Ils avaient dû... Les deux couples, donc ils avaient montré à ma mère et son copain, ils avaient montré, et je me souviens, son copain il me disait, mais c'était horrible, il dit, on était assis là, on avait dû écouter pendant une heure avec le bruit de l'hélicoptère à fond les ballons dans le truc stéréo, et donc ça me faisait rire, parce que c'était le début des VHS, c'est des caméscopes où effectivement les gens pouvaient filmer des heures et des heures, et après ça, il fallait se coltiner ça quand ils te montraient leurs vacances, quoi. Et ça me fait également penser. Non, mais c'est assez amusant parce qu'on parlait des modes de communication. Et je lisais un article très intéressant parce qu'on disait, on poste n'importe quoi, justement. On raconte plein de choses qui sont inintéressantes. Et j'avais lu un article qui parlait du moment où il y a eu des diligences qui ont pu emmener le courrier, en fait. Parce que les gens, au départ, s'écrivaient des lettres, mais c'était compliqué de faire transporter les lettres. À partir du moment où il y a eu des diligences qui pouvaient faire des transports plus rapidement, là, tout d'un coup, il a été possible de s'écrire et de recevoir une lettre en 2-3 jours, ce qui était complètement... ce qui est encore ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais en tout cas, ça se faisait vite. Et ils expliquaient que les lettres que les gens écrivaient au départ, ils racontaient tout ce qu'ils faisaient. Et qu'il y avait une espèce de d'euphorie, en fait, de possibilité de communiquer... d'une façon qui n'était pas possible avant, et que du coup, au départ, ils écrivaient des pages et des pages de choses pas forcément intéressantes, mais juste pour raconter toute leur vie, parce qu'il y avait ce moyen de communication. Et donc, ils faisaient un parallèle avec la communication aujourd'hui, en disant, on raconte beaucoup de choses, parce qu'une espèce d'euphorie d'un nouveau mode de communication, on peut parler à tout le monde en même temps, etc., en disant, peut-être que ça va se calmer, et que ça va être utilisé à meilleur escient, parce qu'on se fatigue aussi, mine de rien, de cette tonne, justement, ce qu'on disait, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est fatigant de voir tous les trucs de tout le monde. On s'en fout un peu. Certains jours, je regarde. Il y a les bons jours, il y a quelques copains qui postent des trucs super bien, super intéressants. Et alors, il y a les jours où je me retrouve à passer une heure dessus, malgré moi. Et je me dis, mais c'est pas possible, j'arrête. Et je suis complètement déprimée en arrêtant le truc, en me disant, mais je n'ai vu que des trucs inintéressants. Et je me suis complètement fait prendre dans le truc. Et je me demande si effectivement il va pas y avoir
un contre-courant.
Pas un contre-courant, mais en tout cas, l'enthousiasme, se calmant un peu. Et les gens vont peut-être pouvoir commencer à utiliser ça de façon un peu plus intelligente. Il y a quand même une bonne partie, de toute façon, qui font ça jamais de façon intelligente. Mais bon, qu'ils l'utiliseront de façon un peu plus choisie, on va dire, plus intéressante.
Bah, je pense que ça reste. Je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que ça a changé un peu. Par exemple, je vois moins de photos de gens qui prennent la photo de ce qu'ils ont mangé, par exemple, ou ce qu'ils vont manger, par exemple. Ça a l'air de s'être un petit peu calmé, parce que j'ai plus l'impression que c'est du Facebook. Maintenant, c'est plus du Instagram, par exemple.
Ouais. Mais tu peux faire ça aussi sur Instagram. Tu peux faire ton assiette sur Instagram, non?
Oui, mais je pense que ça a plus bougé de Facebook vers Instagram.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais.
Donc, je pense qu'en fait, les plateformes changent dans leur utilisation, plus que forcément le sujet des photos, mais j'ai l'impression que par exemple Facebook, ça devient un peu différent de ce que c'était, parce que maintenant il y a du LinkedIn, il y a du Instagram, il y a tous ces trucs, donc il y a des comment on appelle ça, des attentes différentes sur différentes plateformes.
Ouais.
Alors qu'avant, c'était un peu, quand il y a eu Facebook par exemple, tout le monde faisait tout sur Facebook.
Ouais.
Moi, je suis un peu mitigée. Mon concubin vient d'arrêter Facebook là il y a 3 semaines, maintenant 1 mois complètement, il a tout annulé. Il dit qu'il s'en porte mieux. Moi, j'avoue que j'ai du mal parce que d'abord j'en ai besoin pour le boulot. Bon, ça c'est à part, je pourrais aussi utiliser le Facebook d'une collègue, hein, c'est pas le problème, pour pouvoir juste accéder à la page du boulot. Mais j'avoue que le contact avec la France. Oui, c'est malgré tout.
C'est ce que j'explique aux
de
gens.
Savoir ce que, enfin, de savoir ce que.
Quand on est à l'étranger,
tout le monde.
Et en général, on a des copains pas que en France, on a des copains un peu partout.
Ah oui, c'est vrai aussi.
C'est ça aussi. Hein.
C'est vrai aussi. Mm. Donc ça me permet de savoir que tel un tel est allé en vacances, machin truc et tout. Ils se sont retrouvés pour une fête. Mm. Je peux voir les photos de la fête de famille. Ouais, je peux voir. C'est. J'avoue que. Parce que ma mère ne m'envoyait pas toujours. Alors ça aussi, les choses ont changé. Ma mère est passée au même téléphone, au même smartphone que moi il y a quelques années. Maintenant, elle m'envoie pas toujours des photos parce qu'elle a du mal, mais elle envoie des textes et tout, donc ça change. Mais j'avoue que social media, moi j'ai rencontré mes demi-sœurs il y a 4 ans.
Grâce à ça ou...
différemment, mais très peu de contact avec avec mon père, donc que j'ai connu que 3 fois, et grâce à Facebook, je vois des photos de lui régulièrement, donc j'apprends à le connaître
par Facebook
au travers de leur de leur Facebook. Donc
j'ai une amie qui a retrouvé son père comme ça aussi, hein,
ben oui, alors c'est je suis assez mitigée. Je fais très attention à ce que je poste personnellement.
Moi je poste rien, mais par contre je regarde les gens avec qui j'ai été, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement mis en relation par Facebook. Si les topics ne m'intéressent pas, tu peux les cacher, donc c'est pas très grave en fait. Parce que si par exemple t'as des gens, ils peuvent pas s'empêcher, c'est tous les jours, toutes les 2 heures, une photo de leurs enfants, c'est bon, quoi. Et en fait, t'as le choix, au moins. Tu peux dire, tu peux ne pas suivre ces personnes. Mais je suis un peu pareil. J'aime bien me connecter sur Facebook, juste parce que j'ai l'impression que c'est mon seul lien. C'est le seul moyen pour moi de rester en contact avec la France. Si j'arrête ça, je me dis, je vais perdre tous les contacts.
On est en contact avec nos familles régulièrement, mais après, les copains qu'on n'appelle pas tous les mois, quoi. Moi, ça me fait plaisir de voir leurs enfants ou ma nièce, même pas ma nièce, elle n'est pas de ma famille, mais que je considère comme ma nièce, la fille de ma meilleure amie en France, de voir maintenant son Facebook et de suivre ce qu'elle. Parce que j'aurais pas autant de nouvelles par sa mère, au bout du compte, quoi. Donc c'est vrai que ça crée une continuité de liens.
Et quand tu les revois, au moins tu peux dire oui, j'ai vu ça.
Mais d'ailleurs, ça c'est assez marrant parce que ça fait des conversations assez rigolotes, même ici en Nouvelle-Zélande, quand on voit des gens et dire j'ai vu, donc on est espèce de discussion qui est déjà faite, mais en tout cas on dit t'es allé à tel endroit, oui j'ai vu tes photos, etc. Et ça, je sais pas, ça crée un lien qui est pas, je suis comme vous, moi, c'est un truc que j'utilise quand même assez régulièrement. On devait aller aux États-Unis, j'ai une copine qui est là-bas, je connais même pas son adresse email ni son téléphone. Hop, je lui envoie un message, et c'est bon. Et Brock est allé, mon mari est allé est restée chez elle, là je dois y aller, je lui demande, et voilà, on a des petites conversations courtes, mais tout d'un coup qui sont assez intenses, et puis on sait le... Moi je trouve que c'est quand même une invention hallucinante.
Je suis pas vraiment, complètement contre.
Et alors cette histoire de data aussi, de savoir, alors pour des histoires politiques c'est gênant, mais un truc qui m'a toujours un peu... D'ailleurs c'est intéressant, j'aimerais bien savoir, parce que tu dis ton... copain a fait ça, ça est parti de Facebook pour. J'aimerais bien savoir pour quelle raison, mais souvent on nous dit ils prennent vos data et comme ça ils vous mettent de la publicité qui correspond à ce que vous êtes. Mais moi ça me dérange pas, je préfère qu'on mette de la publicité qui correspond à ce que je suis.
C'est quand même de la manipulation, c'est de l'utilisation sans consentement des informations qui te concernent, que tu n'as pas forcément mises publiques et qui sont manipulées. Ouais. Alors la pire des manipulations étant ce qui s'est passé aux États-Unis avec une élection qui a été complètement manipulée, mais l'autre manipulation, c'est que tu deviens un produit qui est vendu, qui est repassé à des sociétés qui font de l'argent sur toi.
Nos adresses, enfin les histoires de télémarketing, nos numéros de téléphone, ils étaient vendus, les listes sont vendues aussi, ils ont tout ça, ça a toujours existé.
Mais ils ne savaient pas autant de choses sur toi.
Oui, c'était moins précis, ouais.
Là, il y a une série de data qui est concentrée sur toi, rien qu'en utilisant Facebook. Tout le monde est contre Facebook, mais je tiens quand même à dire que tous les gens qui ont des adresses Gmail, qui utilisent Google, qui utilisent la Google géolocalisation, sont dans le même aide-moi là,
dans la même situation,
dans la même
en
situation,
fait.
Exactement.
Sans parler que je voyais un truc sur Google aussi sur les paradis fiscaux aussi, ils sont bref, ils déclarent pas mal de leur argent aux Bermudes, enfin bon, c'est du délire quoi, c'est des tout, enfin bon, on peut aller chercher loin toutes ces choses là, mais c'est important que les gens soient conscients, et moi je sais quand je poste un truc sur Facebook, je sais très bien ce que je fais, c'est ce que j'explique. Par exemple, je viens d'ouvrir une adresse Gmail à ma fille. Et je lui expliquais, je lui dis, tu sais bien ce que tu fais. Et je pense que la génération qui arrive maintenant, contrairement à ceux qui ont une vingtaine d'années, comme j'imagine que ta nièce dont tu parlais doit avoir un peu près cet âge-là, ma nièce a cet âge-là aussi, eux, ils postaient n'importe nawak. Hein. Ils faisaient, ils avaient aucune retenue, ils mettaient tout et n'importe quoi sur leur. Je pense que la génération suivante, il y aura une sorte d'éducation qui sera faite par leurs parents, et ils utiliseront ça peut-être en faisant plus attention justement.
Comme les profils publics sur Facebook. Ça a été un grand truc, c'est un moment où les gens avaient des profils publics. Puis ils faisaient des demandes d'emploi et puis ils allaient voir sur Facebook profil public. Et là, t'avais Sophie qui a fait la demande d'emploi sur les photos toute bourrée samedi soir à vomir dans le caniveau, photo un peu ensemble en
ben
profil
oui, mais...
public sur Facebook.
Ben oui, mais quel jeune de 20 ans n'a pas fait une soirée trop arrosée le samedi soir,
nous effectivement bourrée, n'était pas documenté,
à vomir dans
quoi,
le caniveau. Je veux dire, en quoi ça dérange une demande d'emploi? Je veux dire, le samedi soir, c'est samedi soir.
Non, mais je suis d'accord, sauf que toi, moi, peut-être Blandine, pensons comme ça, mais je pense pas que ce soit la majorité de la population. Parce que les trois quarts, de la population aime ne pas savoir. Même si, en gros, tout doit être caché. Surtout ici, c'est très... C'est pareil avec, par exemple, les opinions ici. C'est... tout le monde va faire quelque chose, mais si tu le dis tout fort, tu as un problème. Parce qu'en fait, l'attente, c'est de justement que ça reste caché et que ça ne soit pas communiqué. Donc je pense que c'est plus un état d'esprit que nécessairement...
Je connais quelqu'un qui a pas eu... Alors il m'a jamais expliqué pourquoi. Il m'a dit j'ai arrêté Facebook. Et je lui dis, quelqu'un d'une soixantaine d'années. Hein, maintenant. Et je lui dis pourquoi t'as arrêté. Il me dit parce que ça m'a empêché, ça m'a grillé un boulot. Alors je sais pas de quelle façon, je sais pas. Peut-être effectivement des histoires d'opinion. Tout simplement, quoi. Tu si tu affirmes des opinions qui vont pas avec la politique d'une entreprise, par exemple,
ou alors qui tu aimes, tu sais, les qui tu suis, par exemple. Si tu dis j'aime tel parti politique, par exemple, ça arrive sur ton profil qui est en profil public, genre de choses, hein, c'est vrai.
Mais d'ailleurs, je crois que même si les profils sont privés, je pense qu'ils ont quand même plus ou moins moyen de. Ils doivent plus ou moins trouver des moyens pour pouvoir...
Alors justement, tu me demandais pourquoi mon ami a arrêté. Il a fait un séminaire pour son boulot. Alors je dirais pas ce qu'il fait comme boulot, hein, mais il fait un boulot où ils font justement des recherches sur Facebook sur des gens pour étayer des.
Voilà, là tu vas donner plus de renseignements. Voilà.
Bref, partie des services secrets néo-zélandais.
Des recherches.
En fait, il est agent secret.
Disons, des recherches.
Plus maintenant.
Et bah, puis, depuis ce soir,
en fait, il va falloir que tu trouves un autre travail.
Bref, et donc, ils ont fait un séminaire au boulot où on leur a montré comment, justement, contourner les Facebook et les Instagram qui ne sont pas publics et aller chercher les informations. Ouais. Et là, quand il a vu la montagne, alors c'était juste avant, c'était 2 semaines avant le Cambridge Analytica, que ça explose. Et quand il a vu la montagne d'informations, il a eu... Et puis après, quand Cambridge Analytica est sorti, il a fait justement, il a fait sortir toutes ses datas et il a fait, bon, bah là, ça y est, quoi.
Ouais, ouais.
Alors aussi parce que par son boulot, il n'a pas envie justement à l'effet inverse que quelqu'un aille chercher dans ses affaires, quoi. Donc, il a tout arrêté.
Mais du coup, quand t'arrêtes, tes infos restent quand même. C'est bien, c'était aussi une des questions qui était posée.
Alors non, tu peux delete les datas.
Tu peux.
Tu peux delete ton compte. Parce que moi, j'avais vu des amis qui s'étaient enlevés de Facebook, qui sont retournés après des années, et leur Facebook était toujours là, en fait. Donc il y a moyen, mais il y a quand même moyen de complètement le delete maintenant.
Delete, c'est quoi le mot en français?
Aidez-moi.
Supprimer.
De le supprimer, mais ceci, alors ça lui a posé des problèmes par contre pour rester en contact avec des amis parce qu'il utilise Messenger beaucoup.
Ah oui, d'accord.
Et entre autres avec ses fils qui sont pas à Auckland et il fait souvent des vidéos sur Messenger. Et là il s'est dit, ah merde, si j'enlève mon profil Facebook, j'ai plus Messenger. Donc il y a moyen de garder Messenger sans avoir Facebook et de garder ses contacts Facebook sans avoir Facebook. Ce que je trouve, tout ce que ça m'a dit, c'est qu'effectivement, c'est pas complètement supprimé. Il reste des informations.
Même chose pour Siri. J'ai parlé avec quelqu'un qui est allé à une conférence et on leur a expliqué que Siri, en fait, pour être capable de répondre à nos questions orales, elle est obligée d'être constamment branchée sur ce que tu fais. C'est-à-dire que même quand tu l'utilises pas, elle écoute ce que tu fais. Donc en fait, il paraît que tous les gens dans la conférence, tout le monde a tout de suite, ils ont tous sauté sur leur téléphone et désactivé Siri en fait à cause de ça, parce qu'il dit en fait c'est une écoute constante sur votre vie. C'est-à-dire que si quelqu'un si quelqu'un voulait écouter ce que tu fais, etc., peut effectivement les voies de la technologie qu'on connaît pas tous, mais en fait il y a moyen en fait d'espionner quelqu'un parfaitement.
Non mais ça j'en suis convaincue. C'est par exemple tout ce qui était caméra où il disait que si t'avais une caméra dans ton salon, que quelqu'un pouvait remonter par le réseau internet sur ton ordinateur, passer le firewall pour rentrer dans ta caméra et voir ce qui se passait dans ta maison et en entendant tout.
Je l'ai vu. J'ai un copain en IT qui me l'a montré.
C'est vrai, ouais.
Il a utilisé mon laptop qui était dans la pièce, mais il m'a fait, Et là, t'es là.
C'est un petit peu.
D'accord.
Tu dis que quand on est dans un régime comme le nôtre, et encore, hein, puisque comme c'est quand même utilisé, mais on imagine. On imagine en Corée, par exemple. C'est assez catastrophique, quand même.
Mais
faut savoir l'utiliser.
Il faut savoir faire super attention. Je pense qu'on avait vraiment... Alors, je me dis, on a eu de la chance, finalement, quand on grandissait. On n'avait pas tout ce truc-là. Et ça doit être... Alors, je sais pas, je me disais, être au lycée, c'était déjà bien compliqué quand on n'avait pas de téléphone et Internet. Comment c'est aujourd'hui? Parce que moi, c'est un truc qui me... Je vois les jeunes dans la rue, les trucs qu'ils font, je vois les gens... Je sais pas si, justement, parlons des Commonwealth Games, vous avez pas vu, il y avait Marathon, et celui qui était à la premier au Marathon, et donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il est tombé, et puis, bon, il pouvait pas se relever, quoi. Et donc il y avait dans les règles du marathon, donc si ou non c'était peut-être pas le marathon, le triathlon, quelque chose comme ça, donc t'as pas le droit de les aider. Et si tu l'aides, donc si quelqu'un fait un coma sur un des participants fait un coma sur la route, toi en tant qu'observateur ne peux pas venir l'aider, sinon il est disqualifié. Donc il était par terre, et il y avait tous ces gens, et la première réaction, comme ils peuvent rien faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des photos et ils filment. Et j'étais enragée, en fait. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. À quel point on en est rendu? C'est un homme qui est clairement en souffrance, qui est en train de bah, à mon avis, il avait des problèmes de reins ou quelque chose comme ça. Enfin, quelqu'un qui était vraiment en souffrance et tu voyais, il essayait de se relever, il pouvait pas, il était complètement perdu, il savait pas où il était. Et la réaction, c'est de filmer.
Filmer,
C'est terrible. Hein,
c'est terrible. Mais oui, mais c'est. Mais je me dis, et c'est pour ça que je me dis, mais ça doit être quand même terrible d'être au lycée où tu dis, moi, je me souviens au lycée où à la limite. Il se passait quelque chose, ça restait. Bah finalement, c'était des souvenirs, bons ou mauvais, mais ça restait que dans l'espace des souvenirs. Que maintenant, non, c'est quelqu'un peut s'adresser sur le téléphone et voilà, ça peut
ça devient public.
Et je me dis, ça doit être très très difficile d'être lycéen aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
Et surtout, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est pire que d'autres. Mais, et je me dis, je ne sais pas si un jour, et ça, on en viendra, où ils n'auront plus le droit, ça deviendra interdit.
En France, ils sont en train de discuter l'interdiction des portables dans les collèges et lycées.
Ben, ils devraient. Ouais, ça peut être facile
Non, c'est pas. Ils disent que pour l'instant, en fait, ils ont le droit, les collèges ont le droit d'interdire l'utilisation, mais pas la possession. Et donc, ça veut dire que si les gamins se ramènent avec, donc ils veulent faire en disant, je trouve qu'ils pourront peut-être les utiliser pour des choses pédagogiques. Tu parles qu'ils vont faire ça pour des choses pédagogiques, mais
Je regardais un film hier soir qui s'appelle Call Me By Your Name. Bon, je ne vous le recommande pas spécialement, mais
Moi, je ne l'écris pas alors.
Voilà. Ça se passe en 1983 en Italie, une maison magnifique. Et donc, il y a le téléphone dans l'entrée. Et puis sinon, donc c'est sur un été en fait, et donc t'as tous ces jeunes de 17 ans, 18 ans qui traînent la journée, le soir sur les plazas, à la plage, etc. Et soit ils s'appellent sur le téléphone, le téléphone physique de la maison, où ils laissent des messages aux parents, ou soit ils se loupent. Et de les voir se louper. J'ai trouvé ça, ça fait longtemps que m'est pas arrivé, d'arriver trop tard et il n'y a plus personne et tu sais pas où ils sont et tu sais pas comment les retrouver et puis t'as loupé le coup et il n'y a pas 36 000 textes, t'es où, t'es machin, tout ça. C'est marrant parce que ça m'a choquée. Ça fait pourtant pas si longtemps qu'on vivait comme ça, mais ça m'a vraiment, vraiment marquée.
Moi, c'était les codes des portes, je les oubliais tout le temps. Le nombre de temps que j'ai passé devant des portes closes, tu sais, à attendre que quelqu'un arrive pour pouvoir l'ouvrir, quoi, c'est...
T'as grandi où, toi?
Paris.
Oui. Moi, j'ai pas trop eu ce problème.
Non, moi non plus, les portes, non.
Moi, j'avais pas trop ce problème avec les portes, mais par contre, c'est vrai que... maintenant, ça me fait rire, finalement, on se donne rendez-vous et puis on se tient au courant de ces genres. Oui, j'arrive dans une demi-heure.
Je suis en train de me garer.
Puis après, je me gare ou sur la route ou je suis là ou quoi que ce soit. Et c'est comme on faisait avant. Bah, avant, on était à l'heure.
Ouais.
En fait, avant, tu te donnais rendez-vous quelque part et puis tu y
allais.
Puis, c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autres alternatives.
Non.
Bon. On se réécoute une petite musique. On reparlera de ta série après, peut-être.
On va parler de ta série.
Un petit break musique. Alors, on continue avec Nouvelle Vague. Et cette fois-ci, je vous passe Malavida, qui est une chanson de Manon Negra.
Mais j'ai rencontré un de mes amoureux dessus, oui.
Ok, alors tu vas nous raconter ton amoureux pendant la chanson. Donc, on vous passe Malavida. Et cette fois-ci, elle est chantée avec Olivia Ruiz et version Bossa Nova.
Gitana mía, mi corazón me está sufriendo. Gitana la mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. Malnutrición, me estás dando mala vida.
Hoy como se menea la chica, buena, buena, buena.
Mi corazón,
Rosa.
Mala vida. Pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida.
Pensée pour Yvan, donc le petit copain que j'avais rencontré sur cette musique.
Ah ouais, tu me rassures, je pensais que tu parlais de Yvan, de notre Yvan, de la technique. J'étais là, quoi?
Non, bah, je vous l'aurais dit, vous le saurez.
Il a sa soirée off.
Il a sa soirée off, on va laisser tranquille. Yvan.
Bah, il écoute peut-être.
Oui, oui. Oui, non, il est.
Donc pas toi, Yvan.
Non, pas toi, Yvan, un autre Yvan. Il m'a laissé des bons souvenirs. Voilà. Bon, alors, donc tu vas nous parler d'une série, Virginie ?
Oui, j'ai regardé une série. Je parlais à Anne-Sophie, elle disait qu'elle voulait, la regarder, donc ça tombe bien.
Ben oui.
Je vais en parler un peu.
Je l'ai trouvée et je voulais la regarder.
Donc oui. Tu l'as vue sur Netflix ?
Non, moi j'ai un truc spécial.
D'accord, bah, tu me parleras de ton truc spécial. Moi j'aime bien les trucs spéciaux. Alors, donc moi je l'ai vu sur Netflix, et donc ça c'est une série française, c'est sorti sur TF1 le 4 septembre l'année dernière, et sur Netflix le 13 octobre. Ce qui est assez intéressant, d'habitude ça sort sur des réseaux privés avant de passer sur des réseaux publics, mais là non, c'est passé sur TF1 avant. Donc il n'y a qu'une seule saison, je pense pas en tout cas qu'il y en aurait une autre. Il y a 6 épisodes de 52 minutes. La raison pour laquelle je pense pas qu'il y ait d'autres saisons, c'est que je vois pas comment ils pourraient créer une autre saison. Mais ceci dit,
ah non, pas de spoiler.
Non, mais ceci dit, on s'est arrivé avant où on se dit c'est bon, il n'y en aura pas d'autres, et puis ils arrivent quand même à trouver une façon un peu étriquée de refaire une saison. Donc voilà, donc les acteurs principaux, Carole Bouquet, qui joue Jeanne de Berre, donc qui est l'amante. Il y a un autre.
C'est le truc étonnant en français, un amant, tiens.
Non, l'amante.
Ah oui, d'accord.
Pas l'amante, l'apostrophe. Non, l'amante.
Comme l'amante religieuse.
Voilà. Et puis, c'est intéressant parce que j'ai vu cette. J'ai fait un petit peu de recherche pour vous la présenter, cette série. Et puis, j'ai découvert donc, un des acteurs qui est dans la série qui s'appelle Fred Testo, qui joue Damien Carreau, qui est le fils de Carole Bouquet, Jeanne de Berre dans le film. J'ai pas réalisé qu'en fait, c'était plus un comédien, lui, à la base. Parce qu'il a bossé, il était avec Eric et Ramzy sur Fun Radio. Il a commencé comme ça.
D'accord.
Alors moi, j'étais une grosse fan. On avait parlé avec Anne-Sophie. Moi, j'étais une grosse fan de Fun Radio, de la radio libre. Mais Eric et Ramzy, c'était après. Alors moi, j'étais déjà en Angleterre quand ça a commencé. Mais bon, Eric et Ramzy, c'est de la comédie. Donc il a fait ça. Il a fait le Grand Journal. Et puis sur Canal+. Et puis après, il est passé au cinéma. Donc là, c'est un rôle assez pas comique du tout, quoi, dramatique. Qui est ce que je ne savais pas, ce que j'ai trouvé assez étonnant, parce qu'il m'a pas. Certains comédiens, parfois, tu dis ouais, non, mais lui, il aurait dû faire de la comédie, alors que là, finalement, il passe très bien dans ce dans ce rôle dramatique. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Et puis une autre actrice qui joue le rôle de sa femme, donc Lucie Caro, qui est Manon Azem. Je la connaissais pas, mais en faisant un petit peu de recherche, c'est elle qui a fait les voix off de Hermione dans Harry Potter en version française. Donc voilà l'histoire. Donc c'est l'amant donc Caro Bouquet, c'est une célèbre tueuse en série.
Et elle c'est
une
quoi?
Une tueuse en série.
Tueuse en série.
Et elle est approchée par la police pour l'aider à trouver un autre tueur en série qui reproduit ses crimes à elle. Qu'elle a commis, elle, il y a 25 ans. Et donc, elle dit d'accord, mais en échange, elle demande de parler qu'à une seule personne, qui est son fils, donc Damien Caro, qui lui est policier.
Elle est en prison ?
Elle est en prison, oui. Donc, c'est pas une histoire vraie. Hein. Le scénario, il a été écrit, est inspiré de plusieurs cas, mais il n'y a pas de connexion sur une tueuse en série. En tout cas, et puis elle, dans son truc, c'est assez intéressant, elle tue que des hommes qu'elle considère malades, ou je sais plus, il y en a un terme particulier, en gros, des hommes qui ont des problèmes, donc des violeurs d'enfants, ou des maris violents. Et puis, donc, elle, sa logique, c'est de faire justice elle-même. Alors, c'est assez intéressant, j'ai bien aimé, c'est pas... Alors j'ai regardé quelques critiques et puis parlait oui c'est un peu le silence des agneaux machin. Moi non, hein, j'ai pas trouvé que c'était sordide au point d'être au niveau du silence des agneaux. Je pense que c'est oui c'est gentil. Enfin c'est une série Netflix. C'est oui ça parle d'une tueuse en série, mais en tout cas je pense que c'est pas nécessairement c'est le sujet principal, mais c'est pas que le sujet de la série. Il y a un côté drame familial puisque son fils ne parle plus à sa femme, il veut pas avoir d'enfant parce qu'il considère que s'il a un enfant il peut reproduire et avoir des enfants qui ont les mêmes problèmes que sa femme. Il y a plusieurs drames familiaux avec le père de cette femme, etc. Et en fait, c'est vraiment bien fait parce que ça emmène dans plusieurs directions. Et en fait, on pense à plusieurs moments de se dire « Ah non, mais ça y est, je sais, c'est qui le tueur. » Et en fait, pas du tout. Donc, il y a vraiment plusieurs directions dans lesquelles la série nous emmène. Et donc, je la recommande. Hein, si toi, Anne-Sophie, tu ne l'as pas vue, je recommande vraiment que tu la regardes. C'est pas, comme je dis, c'est pas... C'est pas le silence des agneaux, on va pas avoir des c'est pas des Oscars, mais on va pas avoir des de médailles pour cette série télévisée en France, mais en tout cas elle est assez sympa à regarder. Je sais pas si vous avez vu une autre série d'ailleurs qui est une série anglaise qui s'appelle The Fall.
Non.
Et qui est l'acteur principal, c'est celui qui joue dans 50 nuances de gris.
Ok.
Qui s'appelle Jamie Dolan. Je crois que c'est ça.
Oui,
et qui est une série aussi sur un tueur en série, où là, alors pareil, c'est une autre série sur un tueur en série. Et là aussi, je recommande cette série. Alors, c'est. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça va toujours dans la logique de ces films qui est, en fait, tracer un profil psychologique de ces gens. Et c'est vraiment, moi, c'est ce qui me fascine le plus, c'est ce côté un peu psychologique. C'est-à-dire que c'est pas que sur les crimes, c'est pas. Et en fait, c'est vraiment essayer d'expliquer. Ce qui fait qu'à un moment, il commence à tuer des gens. Et c'est ça, moi, qui me fascine dans ces séries télévisées. Donc, je disais, c'est pas une vraie histoire. Par contre, il y a quand même un lien que j'ai trouvé. Il y avait une tueuse en série qui étranglait des enfants dans les années 1900 à Paris. Elle s'appelait Jeanne Weber. Donc, c'est finalement la seule connexion. Donc, voilà. C'était mon petit article de la journée.
Mais... Je disais donc que je l'avais trouvé à voir. Alors moi, j'utilise pas Netflix. J'utilise Kodi, qui est un.
Et c'est. Alors, tu as le droit d'utiliser Kodi.
Alors j'ai le droit.
D'accord. Bon, moi c'est bien.
Parce que c'était un truc de partage. C'est pas de la download en fait. Cody, il faut se mettre un petit peu, faut être un petit peu, comment on dit, un petit peu.
Ouais, il faut savoir se, faut, se débrouiller.
Faut savoir se débrouiller un petit peu techniquement, mais ça donne accès à multi-channel en fait. Donc on n'est pas limité à Netflix. Je peux voir HBO, je peux voir les séries Amazon, je peux voir Hulu. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que tout d'un coup, il y avait un gros arrivage de séries françaises, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, d'une part, la France se met enfin à faire des séries. D'autre part, elles arrivent enfin dans les pays anglophones. Et donc, j'ai trouvé La Mente. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi, il y a Glacé, qui est une série qui a été adaptée d'un livre, un roman qui a fait carton en France. Il y a la série Le Bureau. Il y a la série Marseille.
À Marseille, on en avait parlé.
Ouais. Je l'ai vu celle-là.
Je l'ai pas vu.
Il paraît que c'est bien, non?
Non, c'est bien, mais en fait, je sais pas. Non, j'étais peut-être pas vous. C'était peut-être pas avec vous l'émission que j'avais fait. Alors c'est bien. Alors je sais pas comment expliquer cette série. Parce que les critiques ont été horribles. Hein. Les critiques ont absolument détruit cette série. Et en fait, je dirais, oui, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Et parfois ça peut être un petit peu surjoué, mais moi j'ai bien aimé. En fait, je sais pas, il y a toujours des attentes un peu différentes pour chacun, mais j'ai pas les mêmes attentes d'un film que pour une série télévisée. Ouais. Et pour moi, une série télévisée, c'est un peu comme c'était quoi cet esprit série de l'été en fait, tu vois, qui se passait dans les années 90. Ouais,
ouais, d'accord. Ouais.
Et moi, c'est ces attentes.
Un peu le roman de garde de la télévision. Quoi,
oui, un truc léger n'a pas besoin que ce soit trop compliqué. Justement, c'est faut se détendre un peu quoi.
Ouais. Ouais.
Donc moi, c'est cette attente que j'ai. Pour les séries françaises.
Ouais.
Après, c'est peut-être pas les attentes. Oui,
parce
que
les gens attendent toujours des séries cultes à chaque fois, en fait.
Voilà,
pas
forcément, mais oui.
Parce qu'on n'est pas les États-Unis non plus.
Ouais.
Mais on n'a pas la même notion artistique, on n'a pas le même jeu d'acteur, on n'a pas le même budget. Oui.
Ouais. Mais justement, on n'est pas les États-Unis. J'ai essayé de joindre ma mère l'autre soir en France, enfin, c'était un matin pour nous, et elle me dit ah, bah non, mais je peux pas. J'ai ma nouvelle série qui démarre et tout. Je suis bon, bah, je te laisse à ta série.
Qui démarre, ça n'existe plus, ça. Enfin, je veux dire, quand ça démarre, tu peux la regarder quand tu veux, non?
Ah, bah non, mais pas elle. Bah non, bah, j'ai 70 ans. Elle regarde quand c'est à la télé, tu vois. C'est,
oui, parce qu'on se disait ça, tu sais, on se disait.
Maintenant,
tu peux.
Non.
Tu poses,
tu l'enregistres sur ta box, tu fais que. Ah, bah non, mais je peux pas. Je peux pas.
Tout en direct.
Bref, ah bah oui, c'est live, hein. C'est live. Et c'est une série, elle me racontait, elle me fait, mais c'est marrant, donc ça fait deux épisodes à la suite, là, elle avait déjà vu un épisode, je l'appelais alors que le deuxième épisode démarrait, et elle me fait, ils ont essayé de refaire un Mad Men, donc apparemment il y a une série en France qui est un peu dans le genre, années 50, 60, avec des gars qui bossent dans la pub, elle m'a pas donné le titre, mais elle me dit, c'est marrant, la source, elle prend pas.
99
et la série. Et elle me dit, mais c'est marrant, la sauce elle prend pas quoi. C'est pas la peine d'essayer de refaire du Mad Men. Faut qu'on fasse les nôtres quoi.
Oui.
Et alors en autre série, il y a aussi La Trêve. Je sais pas si vous avez entendu parler.
Non.
Alors je vais essayer de regarder celle-là parce qu'elle est avec aussi un acteur dont j'ai oublié le nom. Que je vais rechercher quand on va vous passer une chanson. Qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui joue dedans. Et il y a aussi une série qui s'appelle Cannabis. J'ai regardé le premier épisode. Sur trafic de drogue dans le sud de la France. Pas mal, en fait. Bon, j'ai vu qu'un épisode, hein, donc je ne sais pas où je vais avec ça, mais voilà. Donc, tout d'un coup, là, il y a un arrivage de séries françaises, c'est assez énorme.
Je pense que c'est un peu... j'ai vu quelqu'un, je crois que c'est mon beau-frère qui avait commenté sur ce truc. C'est-à-dire que, finalement, le cinéma... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est en train de mourir, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué... Les histoires, les films, de manière générale, c'est les quelques années, là, depuis quelques années, il n'y a pas vraiment de bons films.
Bah, en France,
les scénarios, bah, même l'arrivage de films, les scénarios, c'est un peu lourd. Hein. Il n'y a pas grand-chose. On n'a plus de classiques dont tout le monde se souvient en disant « Ah, ça, c'est tellement un bon film !» Et là, on est en train, en fait, de tourner vers les séries. C'est-à-dire que...
Je sais pas, je me demande si c'est pas une question de quantité. C'est-à-dire, plus t'as une, plus t'as, la quantité est grande, plus t'as de chances de trouver quelque chose de bon dans le tas. Je pense qu'en termes de, en cinéma, t'arrives toujours à trouver des super bons films. Ils sont pas nombreux. Mais moi, le cinéma français, ça fait longtemps que, je, que ça, me, ça, m'a pas fait, ça me fait pas tellement rêver. Quoi. C'est quand même assez. Mais t'as, des, t'as aussi des endroits comme. Le cinéma italien à une époque, le cinéma français au moment de la nouvelle vague, le cinéma danois dans les années 90. Enfin, il y a quand même des. Je trouve qu'il y a des pays qui, se, qui ont des espèces de moments un petit peu de. Où, le, où ils produisent des super bons films. Et puis les Américains, à leur façon, ils, ont, ils produisent aussi de temps en temps quelques, quelques perles. Quoi. Mais il y a quand même. Je ne crois pas que ce soit juste de dire que le cinéma se, s'appauvrit. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt... Il y a justement... Par contre, il y a des séries, etc. Et une, un nouveau type de narration, plus sur la longueur, plus...
Totalement.
Ouais. Ouais. Et de, du fait, parce qu'il y en a beaucoup, forcément, il y en a des très bonnes qui sortent du lot. Quoi. De même qu'il y a des très bons films qui sortent du lot. De,
alors, il y a toujours des bons films, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup les films et le cinéma de manière générale. Et c'est vrai que j'ai, en tout cas, moi c'est ma perception, mais j'ai pas cette connexion avec. J'arrive, je, j'ai du mal à trouver des bons films depuis quelques années, ou vraiment des films qui ressortent avec des scénarios solides et des histoires vraiment intéressantes qui t'accrochent et que. Souvent, là, les cas, depuis quelques années, j'ai l'impression que je commence à regarder les films et puis au bout d'une demi-heure, je suis là, non mais... Ouais.
Mais tu crois pas justement que c'est à cause des séries ?
Non.
Parce que quand on regarde des séries, on a tellement plus le temps de voir les caractères se développer, les personnages se développer en multifacettes que quand on regarde un film et qu'on n'a qu'une heure et demie devant nous. Bah forcément, le, même si le réalisateur il fait deux heures, quoi, il n'a pas trop le temps de développer beaucoup de. Moi, je, maintenant, quand je regarde des films, j'ai vraiment l'impression que c'est direct. Quoi. On ne nous laisse pas le temps de se demander, de se poser des questions. De, ça, les informations se suivent.
Bah c'est justement ce que moi, je trouve et n'arrive pas à se faire bien, justement. J'ai plutôt l'impression que c'est le côté inverse. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à faire des séries maintenant que les scénarios n'arrivent plus à faire un film en deux heures. Quoi. Et j'ai plus l'impression, enfin en tout cas moi j'ai du mal en ce moment à trouver des films qui vraiment qui m'accrochent où j'ai l'impression sur une demi-heure je me dis ça y est voilà c'est, on est en place et là je suis intéressée en général au bout d'une demi-heure je commence à me dire bon on va nulle part là.
C'est amusant ce que vous dites parce qu'en fait avec internet et ce qu'on voit sur tout ce qui est vidéo on, le temps d'attention est quand même de plus en plus court quand tu fais des films sur des comme tu fais des choses qui passent sur le net faut que ce soit super court tu peux pas faire en général c'est du entre une et trois minutes. Donc d'un côté il y a cette espèce de rétrécissement du temps pour des contenus vidéo de différents types, documentaires la plupart du temps. Et puis c'est amusant ce que vous dites là avec la narration des fictions, c'est comme si le temps s'allongeait en fait.
Alors maintenant les documentaires se font en série aussi.
Oui, ouais.
Je vous recommande d'ailleurs le documentaire Wormwood.
D'accord.
Wormwood qui est en six épisodes d'une heure. Donc, quelque chose qui aurait été plus réduit en un documentaire d'une heure et demie, voire deux heures, se fait en six épisodes. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que, donc il y a des interviews, mais il y a aussi des reconstitutions qui sont très, très bien faites.
Ouais, parce que ça, c'est difficile à faire.
Et alors, la cinématographie est fantastique.
Oh, wow.
C'est super bien filmé, le montage est d'enfer, très artistique,
ouais.
Très rétro, très. Futuriste mais dans le sens du groupe artiste futuriste
oui,
mélanger un style dada avec des écritures en superposition coupées à voir absolument parce que c'est très bien fait alors c'est l'histoire est fascinante aussi ça se passe dans les années 50 s'il me semble
c'est une histoire
53.
C'est une histoire.
Non, c'est un documentaire.
C'est un documentaire qui est fait en six parties, en fait. Et en 1953, en fait, la CIA fait des tests de LSD. sur des scientifiques. Oui, alors déjà, ces scientifiques travaillaient dans le secret sur des armes chimiques qui ont été utilisées pendant la guerre de Corée, je crois. Et donc déjà, déjà ils essayaient d'un peu cacher ce qui avait été fait là parce que c'était pas très beau. Mais alors en plus, donc après, ils essayent de voir comment ils peuvent utiliser le LSD pour faire parler les gens ou pour créer des états de psychotiques de façon à les torturer en fait. Et le problème c'est qu'ils ont testé ça sur des scientifiques en fait. Sans avoir leur consentement et surtout sans leur dire qu'ils étaient drogués. Et donc il y a un gars qui n'a pas compris ce qui lui arrivait parce qu'il avait certainement jamais pris de drogue de sa vie, il avait jamais abusé d'alcool, il avait le gars bien blanc, bien straight, bien la vie bien normale en 1953, père de famille normal quoi, qui était jamais sorti de.
Un petit choc, c'est clair.
Et ben ça lui a fait un méchant choc et donc il se serait suicidé.
Et donc, il a peut-être une impression de tourner fou. Hein.
Ouais. Voilà. Donc, voilà toute l'histoire. Et donc, son histoire, la situation et pourquoi et comment et tout ça, ça a été caché à sa famille. Et donc, le fils a passé sa vie à faire des reconstitutions. Il en a fait aussi un projet artistique parce qu'il a fait des collages d'images, des choses vachement intéressantes. Et voilà. Et donc le Woodworm, ce documentaire en 6 parties, je vous le recommande parce que
donc ça parle spécifiquement de l'histoire de cet homme-là ou de l'ensemble des recherches qu'ils ont fait.
Éventuellement, on comprend un peu le programme de la CIA et ce qu'il faisait à l'époque, mais c'est spécifiquement une enquête sur ce qui est arrivé à son père, les personnages.
Il faut faire 6 heures là-dessus, c'est quand même.
Parce qu'à chaque fois qu'il.
Ah oui, ça y est. Ben non, mais ouais.
À chaque fois qu'il soulève.
Project MK Ultra, c'est comme ça. Que je
voilà. À chaque fois qu'il soulève une pierre, il découvre encore des cadavres. Enfin, pas des cadavres, mais des mensonges et des. C'est montagne de mensonges après montagne de mensonges. D'accord. C'est pour ça qu'il y a passé sa vie aussi. Ouais. Et puis surtout, c'est une histoire à rebondissement parce que la famille, alors au début, on les tient à l'écart. Et puis ensuite, ils sont reçus par le chef de la CIA et le président en disant, bah oui, non, oui, désolé, c'est de notre faute. Alors ça, c'était dans les années 70. Et puis après, dans les années 80, on leur recache des trucs. Enfin... suivant les gouvernements, ils découvrent des choses à chaque fois. Quoi. C'est aussi vachement intéressant de voir comment des agences comme la CIA peuvent manipuler et passer au travers de gouvernements et continuer impunément à faire ce qu'ils font au fur et à mesure des années. Quoi. C'est vachement intéressant. Mais alors, esthétiquement, je l'ai trouvé super bien fait. Et c'est rare pour des documentaires. Mais ils ont vraiment pris le temps, comme ils avaient 6 épisodes d'une heure, ils ont vraiment pris le temps de faire quelque chose d'esthétique.
En plus, si lui, il est relativement artistique, d'après ce que tu
dis
aussi. Mais c'est
ça. Ouais. Et la façon dont c'est filmé, c'est super beau. Même la façon dont il filme les interviews, où il est dans une pièce et on a la caméra pile poil à la porte. Ouais. Et donc, on voit le couloir vide et on voit la salle où il est interviewé.
Ouais.
Et ça fait une superbe structure, une superbe composition d'images. Enfin, tout est... Les lumières sont magnifiques, l'endroit où ils font les interviews sont superbes. Ouais. Là-dessus, tu as des polices de caractère, etc. ajoutées. Enfin, c'est vraiment très beau à voir.
Et donc ça, c'est sur Netflix, justement?
Je ne sais pas, moi. Parce qu'avec le problème avec mon Cody, c'est que je ne sais plus qui passe qui.
Tu sais, toi, Virginie, où c'est, non?
De quoi?
Cette série-là, si on la trouve sur Netflix?
Non, je ne pense pas. Je peux regarder, mais non.
Si, c'est sur Netflix parce que on regardait soit un épisode chez moi, soit chez mon ami.
D'accord.
Et il a Netflix. Donc oui, c'est sur Netflix.
Donc je regardais, il y avait un truc, et c'est comme ça que je connais sur MK, justement le MK Ultra. C'est en fait, il y a une connexion entre Stanley Kubrick et Eyes Wide Shut et MK Ultra. Donc en fait, il y a des.
Ah.
Oui, parce qu'en fait, il fait des connexions sur. Justement, les victimes d'MK Ultra où ils droguaient, en fait, ils utilisaient des femmes comme des sex slaves. Et donc,
des sex slaves
des esclaves sexuels.
Ah, d'accord. Et en fait, il y a tout un espèce de truc et la scène où ils vont dans. Parce que, en fait, c'est une société secrète et quand ils vont dans ce château et en fait, il y a toutes ces femmes à poil, machin. Et en fait, il y a une connexion avec MK Ultra. Donc. Allez voir, il y a pas mal de trucs de connexion là-dessus, c'est assez intéressant.
Ah, d'accord.
C'est un gros... un gros secret en fait, mal gardé, parce que en fait il y a tellement de ramifications et ils ont tellement merdé aussi au fur et à mesure des années que ça a fui, ça a fui de partout.
Oui, et puis les droguets de très jeunes aussi. Hein. Oh, MK Ultra, oh, ouais, non, mais MK Ultra, faut garder, hein, c'est un truc de société secrète. Très très lourd et
dans les années 50 et 60, le gouvernement américain a fait beaucoup de tests d'armes chimiques, mais pas seulement d'armes chimiques de guerre, mais aussi d'utilisation contre les gens individuels. C'est assez terrible.
C'est intéressant, c'est très très. Moi, j'ai pas vu Wormwood, mais en tout cas.
À voir, hein, je vous le conseille.
J'ai regardé parce que justement, le truc, j'avais regardé pas mal de trucs sur MK Ultra. Donc là, que je vois la connexion, je me dis, ça doit être effectivement très intéressant. Juste pour information, c'est pas. Après, il faut en prendre en lice. Hein.
Bon, l'hiver approche, on va passer nos soirées devant nos télés. Alors, voilà.
Comme il pleut tout le temps.
Ça vous donne des idées de séries.
Oui, non, je vais regarder. J'ai regardé. Donc, Cody, c'est K-O-D-Y.
K-O-D-I.
K-O-D-I. Et c'est un truc gratuit ou ça marche comment?
C'est gratuit. Alors, on peut s'acheter un. Moi, j'ai une boîte TV que je branche sur ma télé que j'ai achetée. Qui avait déjà donc Kodi, c'est une plateforme en fait, c'est comme un iOS en fait.
Oui.
Donc c'est la plateforme qui fait tourner tous les trucs. Et sous Kodi en fait, sous Kodi, on a en fait accès à des sources qui vont chercher sur Internet. Alors ils vont chercher aussi ce qui est gratuit, quoi. Moi je regarde Quotidien tous les jours, qui est tiré du site de TF1 en fait. Donc en fait on a que la semaine parce qu'ils les gardent pas. Tu sais, toutes les semaines ils rechangent ou je sais plus quoi, où il y a qu'une semaine ou deux.
Oui, ils les gardent sur une semaine. Oui.
Donc en fait je peux garder que la semaine. Mais en fait donc ils vont chercher tout ce qui est en streaming. Available partout. Alors ça peut être sur des serveurs privés, ça peut être sur des serveurs publics. Et donc ça donne accès à toutes sortes de séries. Du coup, on n'est plus limité à des channels de télévision en fait, ou des sociétés de télévision comme Netflix ou HBO ou voilà.
Mais je vais regarder.
Alors c'est plus ou moins légal. Peut-être moins que plus.
C'est légal.
C'est légal.
Ah, les bons tuyaux d'amuse-gueule.
Non, mais c'est légal. Hein.
Ben, disons que c'est plus légal que de downloader. Parce qu'en fait,
totalement, parce que tu n'utilises pas les.
Non, si tu achètes le truc pour le.
Bah non, c'est une plateforme.
Ah oui, d'accord.
Donc, je l'ai acheté, donc de toute façon, j'ai payé. C'est une plateforme. Ouais. Après, que je stream ce qui est sur Internet, c'est pas moi qui l'ai mis.
Oui,
et je regarde. Et s'il n'est pas available, il n'est pas available. Je ne vais pas essayer d'aller downloader ou de. Et je ne participe pas non plus à la download, puisque ce n'est pas comme un download où ensuite ça reste en peer-to-peer. Comme je download rien et qu'il n'y a rien dans ma boîte au niveau mémoire, il n'y a aucune participation à ça.
Oui,
quoi.
Et puis surtout, l'avantage de ne pas faire ça, c'est que tu ne le ramènes pas sur ton disque dur.
Oui.
Parce que sinon, après, c'est pareil, tout ce qui est, comme tu disais, en peer-to-peer, là, le problème, c'est qu'après, quelqu'un vient se servir dans ton ordinateur utiliser des informations publiques.
Ouais.
Enfin, soi-disant publiques, mais... Oui, j'aime pas trop ce truc-là. Je trouve pas que ce soit très très sain, en tout cas pour un ordinateur.
Mais moi, ce que j'aime bien avec Kodi, c'est que ça permet de voir des émissions françaises, quoi.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Ok. On écoute une petite musique pour finir.
Ben voilà, on va se quitter avec.
On vous parlera de Body World une autre fois.
Oui, ah oui.
Ben oui. Oui, non, mais on en parlera une autre fois. Il faut avoir un peu de temps pour en parler.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Ouais.
On se quitte avec Marcia Baella, une version de Nouvelle Vague.
Ah, super, très bien.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Marcia Baella. Marcia, elle danse sur du satin de la région du polystyrène. Pensez à ses pieds. Marcia danse avec des jambes aiguisées comme des couperets de flèches qui donnent des idées, des sensations.